France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il y a une influence du touriste sur Venise qui est plus forte que l'influence de Venise sur le touriste, regrette l'un des invités voyageurs, explorateurs de Venise dans l'émission qui vient, la première d'une série proposée à la fin des années 60 sur France Culture. Vous êtes allé à Venise, où vous rêvez de vous y rendre, a priori accompagné. Mais bien sûr, vous ne serez pas des touristes. Les touristes, ce sont les autres. Bien, pour commencer, l'île de Torcello, puis Rialto et la Piazza San Marco. Venise, il faut des heures pour la connaître. Des heures à la radio, s'entend. Des heures vénitiennes. Voici la première d'une série proposée par Bronislav Horowitz, diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 septembre 1969.
Oh Venise, Venise, quand tes palais de marbre se seront écroulés dans les eaux, les nations se lamenteront sur tes ruines et l'on entendra des cris de douleur au bord de la mer destructive.
Heure vénitienne. Une série d'émissions produites et réalisées par Bronislav Horowitz et enregistré à Venise par René Huyg et Marcel Brion de l'Académie française. Aujourd'hui, Torcello, Rialto, Piazza San Marco.
Il y a 15 siècles, au temps où Ravenne, couché à l'ombre de sa forêt, resplendissait sombrement, telle une basilissa luxurieuse, ici, sous le ciel de Venise, il n'y avait rien qui annonçât Venise. Il y avait un grand marais, bordé de plages incertaines, hérissé de roseaux, parsemé d'îlots sauvagement verdoyants, envahi et ravagé de temps en temps par de furieux courants d'eau douce et d'eau amère. Sur quelques îlots plus solides que les autres, et sur les bords de la mer, habitait une peuplade de saliniers et de pêcheurs, de petits maraîchers, de petits nautonniers, vaguement assujettis d'abord à Rome, puis à Byzance, sans autre histoire que celle de sa pauvre existence quotidienne. Et il y avait la mer, qui montait tous les jours, comme elle monte à présent, jusqu'à couvrir les îlots les plus bas, et qui ne cessait jamais de ronger les terres un peu plus élevées, où ces gens s'obstinaient à vivre et à mourir ignorés. Venise est en somme une créature de volonté et de foi, mieux, de poésie. Et justement parce qu'elle est de substance poétique, elle existe toujours dans sa forme et avec son âme originelle, tandis que sont mortes, perdues à jamais, les saisons historiques qui furent les siennes. Non seulement elle existe, mais elle semble renaître, se recréer chaque matin comme si elle sortait du néant, par la force de sa volonté primitive. Le paysage naturel d'où elle émergea au premier jour est encore là. Eau de lagune qui s'étend tout alentour et s'insinue et circule par cent veines dans son sein, rivages effilés qui la défendent des assauts de la mer, îles cultivées et îlots déserts, et la mer qui brille à l'horizon, comblant l'air de son frémissement immense, et le ciel qui l'embrasse tout entière, qui l'inonde de clarté et accueille les reflets miroitants de ses eaux. Diego Valeri.
Thank you. C'est en effet une méditation continue sur la vie et sur la mort qu'appelle Venise, et particulièrement lorsqu'on revient ici à son origine, à Torcello. On sent comment la ville est née. On voit des étendues plates, mornes, sous un ciel vide, avec une horizontalité de la terre qui est encore toute proche de celle de la mer. On dirait que c'est l'élément fluide primordial qui peu à peu se coagule et laisse pousser sur les bouts une végétation qui est le début de la vie. Et puis, sur ces étendues plates, les cités se sont élevées. Et nous sommes ici sur une île où il reste, je crois, 13 fermes seulement. Et on ne peut s'empêcher de méditer sur l'île primitive qui n'avait rien, puis la cité qui tout d'un coup s'est élevée et qui a compté, je crois, jusqu'à 20 000 habitants. Et puis tout cela retourne à cette même horizontalité de la terre, à peine soulevée sur les eaux. Et il ne reste plus que 13 fermes. Encore est-ce là un début de renaissance, car il y a eu la malaria à un moment, et l'île s'est trouvée encore plus déserte, peuplée uniquement de paysans malades. C'est un début de résurrection. Et d'ailleurs, c'est là que le problème de Venise se sent, et peut-être qu'il faudrait le poser dès maintenant. C'est que quand les premiers habitants se sont placés dans ces îles, le danger était le marécage. Ce qui a fait la force de Venise, c'est ce qui a fait l'installation d'ailleurs définitive à Venise, c'est qu'il y avait des marées que l'on n'imagine pas quand on n'habite pas à Venise. Il y a des montées de l'eau, une palpitation des canaux que l'on voit surtout sur le Grand Canal, c'est extrêmement sensible. On peut voir parfois flotter sur le Grand Canal un débris, et alors on le voit bouger, suivre des courants, remonter un petit canot, revenir. Il y a là toute une dynamique des courants d'eau dans Venise. Et ce jeu des marées a assuré la salubrité de Venise. Il n'y a pas eu cet envasement lent qui a tué Torcello et les autres îles aux alentours des îles de la lagune. Là, la vase, peu à peu, a monté, a reconquis sur les eaux vives. Et par la vase, c'est le retour à la mort, de même que par l'entremise de la vase qui se solidifiait, ça a été la montée vers la vie. Et c'est peut-être ce qui fait cette grandeur du site vénitien et de la vie à Venise, que l'on est extrêmement proche des rythmes primordiaux de la vie, que l'on comprend cette marée continuelle qui monte et qui descend, qui va de la vie à la mort. Et toute cette ville qui n'est plus maintenant qu'un monument. Et cela encore, c'est un objet de méditation, de penser que tout est retourné à la mort, les activités sont retournées à la mort, il n'y a plus que quelques survivants, quelques maisons, quelques fermes, et les touristes qui viennent eux aussi comme une marée à certaines heures et qui refluent rapidement pour ne pas manquer le bateau, pour laisser retomber l'île à sa solitude. Et qu'est-ce qui reste au fond dans cette île? Il reste des monuments, il reste des œuvres d'art. Et par-delà même l'œuvre d'art, elle a son sens du sacré. Il est étonnant que dans cette île qui est retournée à l'horizontalité primordiale, il y ait encore une grande verticale qui existe, c'est celle du campanile. Et cela encore est vénitien. Venise a gardé du Moyen-Âge ce sens de l'élan vers le ciel, de sortir de l'horizontale, comme les hommes du Nord d'ailleurs, avec leurs clochers et leurs beffrois, qui savent qu'une plaine n'est pas supportable dans son horizontalité, si tant il y a un grand jet. Et il est assez émouvant de trouver sur cette île, à la fois quand on débarque, des chants d'oiseaux dans les buissons, et à côté de ces chants d'oiseaux, il y a tout d'un coup ce grand campanile qui jaillit dans un élan vers le ciel, et qui est comme un grand cri humain.
Si nous y montons vers le soir, Et il n'y a la personne pour nous en empêcher, car la porte qui donne accès à l'escalier en ruine se balance doucement sur ses gonds. Nous verrons s'ouvrir devant nos yeux l'un des plus remarquables panoramas du monde. Aussi loin que le regard puisse atteindre, c'est un désert sauvage de brandes marines, d'un gris cendre blafard, en rien semblable aux mours d'Écosse avec leurs mares d'un noir d'encre et leurs bruyères pourprées. Tout est morne et sans vie, couleur de toile. L'eau de mer, croupie, pénètre au cœur des racines des herbes âcres et lance çà et là un bref reflet au cours de ses méandres. Pas d'amoncellement de brumes fantastiques ni de nuages qui les traversent de leur course folle, mais une clarté immense, oppressante dans le chaud coucher du soleil, étendant jusqu'à l'horizon sa calme mélancolie. Oui, au nord-est, le regard pénètre jusqu'à la limite de l'horizon. Mais vers le nord et l'ouest, on distingue une ligne bleue de terre plus haute et au-dessus, plus loin encore, une chaîne brumeuse de montagnes tachées de neige. À l'est, c'est la pâleur et le grondement de l'Adriatique, plus fort par moments lorsque les vagues viennent se jeter sur les brisants. Puis les bras qui vont en s'élargissant d'une calme lagune tour à tour mauve et verte, selon qu'elle reflète les nuages du soir ou le ciel du crépuscule. Regardons plus loin, vers le sud. Au-delà des tentacules de plus en plus larges de la lagune, sortant du lac où les eaux se rejoignent, on voit se dresser une multitude de tours sombres, éparpillées parmi les formes carrées de palais innombrables, traçant une longue ligne irrégulière qui ronge le ciel méridional. Mère et fille, nous les contemplons toutes deux dans leur veuvage. John Ruskin.
Maintenant que nous voilà en marche depuis le bout du canal jusqu'au monument, dans ce court chemin, il y a tout de même une chose qu'il faut évoquer, c'est le commerce. Car je vois partout le long de ce chemin, attendant comme les araignées dans la toile le touriste qui n'afflue pas encore, des petites baraques, les éventaires en plein vent, avec le scintillement de toutes ces verreries de Venise, qui hélas sont d'un goût qui parfois décroît un peu, car il y a une influence du touriste sur Venise qui est plus forte que l'influence de Venise sur le touriste. Mais enfin, cela c'est un autre aspect. Pour le moment, c'est très joli ce scintillement. Et on n'imagine pas devant ces petites boutiques en plein air qu'il y a eu ici, et c'est très important à signaler parce que c'est le début même de l'esprit vénitien et de l'économie vénitienne, il y a eu à Torcello, en Emporium, il y a eu un port qui a été très actif et qui a commencé toutes ces importations et exportations qui vont être la vie de Venise. Par exemple, de Dalmatie, on faisait venir, c'est le début de l'importance que la Dalmatie va jouer pour l'Empire vénitien, dans lequel elle entrera. Nous retrouvons sur le quai des Esclavons, nous retrouverons tout à l'heure ce souvenir des Dalmates et leur importance. De Dalmatie, on faisait venir le bois qui, comme la pierre, manquait. Si la pierre se trouve dans les ruines, le bois nécessite des forêts. Des pouilles, on faisait venir déjà le blé, ce qui va être un embryon du commerce vénitien. Et alors, en échange d'Orient, on commençait à faire venir des épices, des métaux qui manquent également dans la région. Si bien que, et tout ça allait se retransmettre du côté de l'Allemagne. Si bien qu'il y a eu déjà dans ce premier port, il y a eu un début de commerce entre l'Orient et l'Occident et comme l'embryon de tout le commerce vénitien.
On ne peut plus avoir aujourd'hui aucune idée de ce qu'était la richesse de Torcello, puisqu'il n'y a plus que de pauvres jardins avec des masures croulantes. Mais les monuments qui restent et qui sont groupés autour d'une place semée de marbres antiques, le petit Municipio, le petit hôtel de ville avec son escalier de marbre, l'église de Santa Fosca, cette église octogonale qui montre bien que, justement, le sens de la résurrection est toujours là, puisque l'octogone est le symbole de la résurrection, de même que l'hexagone est le symbole de la mort. Cette église de Santa Fosca, justement, montre qu'il y a à Torcello une perpétuelle idée de résurrection. Et même si aujourd'hui l'île n'est plus une ville de commerce, elle est toujours la chose de beauté, et c'est la chose de beauté qui compte le plus, et que les hommes viendront toujours chercher et admirer. Et cette chose de beauté, elle est matérialisée d'abord par la basilique. Cette basilique qui a été construite dans le style des grandes basiliques byzantines, mais avec quelque chose de violent, quelque chose d'âpre et de dur. Car il ne s'agissait pas seulement ici de bâtir un édifice à la gloire de Dieu. Il fallait aussi que cet édifice à la gloire de Dieu fût capable de résister aux intempéries. Et il y a sur la lagune tout de même assez souvent des tempêtes violentes. Et il fallait enfin que cet édifice fût capable de résister encore plus à la violence des hommes. Et c'est pour cela que la basilique, avec son campanile, donne l'impression d'une forteresse, d'une maison fortifiée. Et le campanile, et c'est une tour de guet au sommet de laquelle des hommes verront de loin arriver des navires, que ce fussent des navires turcs ou simplement des navires de pirates.
Mais permettez-vous de signaler au passage que ce côté militaire et ces dangers sont encore visibles à l'heure actuelle dans ces singuliers volets que je crois quasi unique, je ne sais pas si on en retrouve ailleurs, ces volets de pierre qui sont sur des gonds de pierre et qui permettent de fermer toutes les ouvertures de l'église, évidemment, au cas où il y aurait une attaque.
Justement, ces gonds de pierre, je ne crois pas qu'ils aient été installés pour préserver l'église contre la tempête. Je crois qu'ils avaient surtout pour effet d'obturer hermétiquement toutes les ouvertures, de façon à ce qu'un agresseur éventuel ne puisse pas pénétrer.
Et alors, on pourrait résumer l'impression première que nous avons sur cette petite place. Vous venez d'évoquer les bâtiments civils, d'évoquer les bâtiments religieux. Il y a, pour ainsi dire, tout le germe de ce qui va être la puissance vénitienne. À gauche, nous avons donc, ce sont devenus maintenant des musées, nous avons donc le palais du conseil et le palais de l'Archivio, et entre les deux existait jadis le palais du Podesta. Par conséquent, c'est déjà le pouvoir civil de Venise qui s'organise, c'est-à-dire un doge, le futur doge, qui est le Podesta, et d'autre part, le conseil qui va être auprès de lui. À côté, nous avons les édifices religieux qui montrent l'importance que la foi va avoir pour les Vénitiens. Enfin, il y aurait trop à raconter sur tout cela. Et des deux aspects, le pouvoir civil, d'autre part la croissance religieuse et la production commerciale, car il y a eu ici une activité très grande jadis, non seulement de commerce par intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, mais également un commerce de laine. On a fabriqué, si je ne me trompe, la laine ici pour la première fois dans l'ensemble de la Vénétie, et c'était une grande ressource. Voilà donc tout posé dans ces quatre ou cinq monuments qui subsistent, tout ce qui sera plus tard l'armature même de la puissance vénitienne. La basilique de Torcello vous assaille de toutes parts, à la fois par tous les souvenirs qu'elle évoque. On voit surgir ici toutes les origines de l'art vénitien, toute la transmission des premiers temps chrétiens que l'on voit dans les pierres. C'était à la fois des éléments pour bâtir, mais c'était aussi des souvenirs précieux, et pour les habitants expatriés, c'était certainement leurs racines qu'ils emportaient avec eux et qu'ils retrouvaient dans l'endroit le plus sacré qui était l'église. Alors on voit naître cet art chrétien primitif, tel qu'il s'est déformé sous l'influence évidemment de Byzance et de l'exarchat byzantin. Puis on voit cela dans l'ancien type même de la basilique quadrangulaire, qui nous rappelle, elle, l'hérédité romaine et les grandes structures fermes et simples de la latinité. Et surtout cela dans cette solitude des murs nus, sous ce plafond de bois, dans ce grand volume où la résonance même de la voix indique une sorte de solitude sacrée. Et il y a en même temps l'éclatement tout d'un coup des mosaïques, et ces mosaïques à fond d'or. Cela nous montre aussi combien Venise, par l'intermédiaire de ici de Torcello, combien Venise est plus que le reste de l'Europe à cause de ses contacts avec Byzance. Certes, l'art byzantin a marqué toute l'Italie, mais c'est ici qu'on sent l'emprise la plus forte. Et il ne faudrait pas oublier que si Venise est la ville de la lumière, l'art byzantin, lui aussi, était un art de la lumière. C'est l'art de la Méditerranée qui a eu deux grandes phases, si on peut dire. Il y a eu l'art de la Méditerranée faite de clarté, de logique, la Méditerranée des Grecs et des Romains, et puis il y a eu la Méditerranée orientale, dont Venise était l'écho, et qui, elle, était le porche de l'Orient. Et par cette ouverture, c'est tout un autre monde qui venait déferler, un monde qui ne repose plus sur l'intelligence et ses constructions, mais sur l'esprit et ses révélations. Et la lumière y a joué un très grand rôle. Et c'est pourquoi cette lumière vénitienne, même quand elle sera traduite plus tard par des hommes que certains jugent superficiels, comme Tiepolo, même cette lumière garde un sens extrêmement profond. Et quand Tiepolo détruit les formes, les effiloche comme des nuées, les dissipe dans l'air comme des draperies flottantes et fait régner partout le vide, avec le vide, c'est encore la lumière que Tiepolo épand. Et cette lumière, elle va être développée techniquement par l'industrie du verre qui se combine avec la mosaïque, car la mosaïque, cela est tout à fait révélateur, la mosaïque romaine est faite avec des petits cubes de marbre opaque, c'est de la construction, c'est du bâtiment, tandis que la mosaïque byzantine et la mosaïque vénitienne est faite avec des cubes de verre, et le verre, c'est la lumière. Le verre a d'ailleurs, pour les hommes du Moyen-Âge, pour les hommes pénétrés de spiritualité, le verre a une portée mystique. Il est d'ailleurs curieux de voir que les musulmans également ont eu le même sentiment, à savoir que le verre est de la matière, mais c'est la matière la plus immatérielle, puisqu'elle peut être transpercée par la lumière. Or, la lumière est l'esprit. C'est peut-être ici, à Torcello, qu'on peut le mieux évoquer toutes ces origines artistiques. André Grabar, du Collège de France, a très bien montré comment, dès le 3e, 4e siècle, il se forme une esthétique sous l'influence de l'école d'Alexandrie et surtout de Plotin, des néo-platoniciens, une esthétique qui est celle précisément de la lumière. Cette opposition, nous la sentons tout de suite avec la Méditerranée gréco-latine. Plotin dit, par exemple, lui qui est un platonicien, lui qui sort par conséquent de la tradition grecque, eh bien, lui qui en même temps avait été au-devant de l'Orient et avait accompagné les armées pour entrer en contact avec justement les adversaires orientaux, lui qui était l'homme des deux civilisations, il dit dans les Énéades, il n'y a pas que la forme qui est belle, il n'y a pas que les proportions qui sont belles comme tu le crois. Car où est la forme? Où sont les proportions? Dans la lumière de l'éclair ou dans la lumière d'un feu qui s'allume dans la nuit? Il n'y a plus ici ni matière ni proportion. Il y a donc une beauté qui est dans la lumière. Et cette beauté de la lumière, c'est qu'elle est précisément immatérielle. Et voilà pourquoi la mosaïque
a une très haute signification. Les hommes du XIXe siècle ont cru pendant longtemps qu'il y avait de la naïveté chez les Byzantins et chez leurs imitateurs, parce qu'il n'y avait pas de profondeur, parce qu'il n'y avait pas de volume, il n'y avait pas de relief. Mais c'est qu'il s'agit justement d'expurger la matière. Et cette platitude au sens littéral, cette platitude des figures sur le fond, c'est pour les désincarner, c'est pour les délivrer, au contraire, de cette troisième dimension qui leur donnerait une masse, un poids et une consistance. Et alors, qu'est-ce qui reste? Il reste, comme dans la mosaïque de la Sainte Mère de Dieu, Mater Teu, il reste une silhouette sur un scintillement d'or. Et il est tout à fait curieux de penser que cela est même passé dans notre Moyen-Âge. La lumière étant plus parcimonieuse dans les pays du Nord, il a fallu trouver une autre technique pour exprimer cette symbolique, ça a été le vitrail. Parce que dans le vitrail, la lumière n'est pas perdue, elle n'est pas réfléchie, elle traverse le verre, donc on l'économise en quelque sorte, on lui fait rendre son maximum de présence. Mais ici, au-dessus de la Mater Teu, nous voyons l'Annonciation. Et nous retrouvons dans les textes des prédicateurs du Moyen-Âge l'idée que justement la Vierge, quand l'Esprit-Saint est descendu en elle, était semblable à du verre, parce que l'Esprit peut traverser justement la matière dans certaines circonstances, et que l'incarnation, la conception du Christ dans un corps de femme, mais par l'opération de l'Esprit, pouvait très bien être comparée à la lumière qui traverse le vitrail et qui y crée l'image, l'éclat et la couleur. Nous retrouvons la même chose chez les musulmans. Et il y a des textes, malheureusement, nous sommes ici en promenade et je n'ai pas de référence et pas de bibliothèque, mais il y a des textes arabes qui disent que la lampe de mosquée a un caractère justement sacré parce que la lumière y traverse le verre et que la matière ne lui oppose pas de résistance, de même que le corps en face de l'esprit. Il y a donc là toute une conception, et cette conception a profondément pénétré Venise. Et si nous cherchons ici les origines de l'art vénitien, il nous faut comprendre que la supériorité des Vénitiens sur le reste de l'Italie, et ce qui fait leur autonomie en tant qu'école, et ce qui fera plus tard peut-être leur modernisme beaucoup plus grand, leur fécondité beaucoup plus active auprès des modernes, c'est que les Vénitiens ne sont pas de cette pure hérédité latine où tout est matière à concept et à forme, à choses pensées. Les Vénitiens ont baigné, et dès ici, dès Torcello, dans cette ambiance de l'Orient transmise par Byzance, et s'ils arriveront plus tard à exprimer les secrets de l'âme individuelle, et très tôt, dès les environs de 1500 avec Giorgione, c'est sans doute parce qu'ils étaient entraînés à traduire les secrets de l'âme collective religieuse dès les origines du Moyen-Âge. Eh bien, revenons donc ici à la basilique. Elle est en effet un monument des plus émouvants. Après Aquilée, où il y a des restes de mosaïques plus anciens, c'est ici qu'on trouve vraiment le germe de l'art vénitien. Elle a été fondée dès 639, donc 7e siècle. C'est au temps d'Héraclius de Byzance, bien entendu. Il ne reste rien de ses origines, mais elle a été refaite au 7e siècle. Et là, nous avons quelques témoignages. Dans l'abside centrale, on a utilisé pour la mosaïque, la partie basse de la mosaïque, on a utilisé des éléments de la mosaïque ancienne. Et puis alors, au 9e siècle, on a travaillé la façade. Et enfin, c'est au 11e siècle, en 1008, que la basilique s'est développée telle que nous la voyons aujourd'hui, avec son narthex, et encore cette marque byzantine, car on voit entre la poutre traversière et le chapiteau, on voit se situer ces sortes de coussins, les barbacani, ces coussinets qui se trouvent également dans l'art byzantin. Et on trouve de cette origine également les mosaïques du sol, tout cet art de la mosaïque du sol qui va se développer, qui fait une analogie au tapis d'Orient. Les églises de Venise nous donnent souvent l'impression de fouler aux pieds un scintillement de couleurs adoucies, amorties, comme dans de très vieux tapis qui seraient venus de l'Orient. Et dans cette église si pure, si nue, où se mêlent ainsi les structures de l'hérédité latine et les ouvertures artistiques de l'Orient byzantin, les grandes mosaïques vont se développer sur le mur au revers de la façade. C'est le jugement dernier qui est un amusement pour l'œil, car on y retrouve tous les motifs iconographiques traditionnels, avec l'étymasia au centre, sous la figure du Christ dans sa mandorle, ce trône vide où se trouve à la fois le livre et les instruments de la passion, où le Christ, justement, par une symbolique extrêmement dépouillée, est peut-être plus présent que dans ses figures, car il est une parole, un verbe, et il est en même temps une incarnation qui est pour la première fois le Dieu assumant les souffrances de l'homme et sa condition humaine. Et sur ce trône vide, sur cette royauté divine, figure à la fois la parole qui enseigne les hommes et la souffrance qui a appris à Dieu la condition des hommes d'une manière effective, en quelque sorte. Et là, dans ce jugement dernier, mais je céderai la parole à Marcel Brion pour développer l'opposition des mosaïques. Dans ce jugement dernier, nous trouvons toute la pensée abstraite qui s'exprime par des symboles, et en face, dans la grande mosaïque de la Mater Teu, qui est du siècle suivant, qui est du XIIIe siècle, nous trouvons au contraire la concentration d'une méditation dépouillée. Mais Marcel Brion dira tout ça bien mieux que je ne saurais le dire. À lui de parler.
Ce qui est très curieux, évidemment, dans la mosaïque adossée à la façade de l'église, c'est ce mélange de très hautes conceptions théologiques et d'un réalisme assez rare chez les Byzantins. Nous voyons ici éclater ou commencer à éclater déjà cette sorte de hiératisme byzantin qui pendant longtemps pesait sur l'art de Venise, comme il pesait sur tout l'art de l'exarchat byzantin. Nous voyons par exemple le détail de l'enfer dans ce jugement dernier, avec des têtes grouillantes de verre. Et nous voyons deux étages plus haut, ce qui est très très important, nous voyons la résurrection des morts. Et il est intéressant de s'apercevoir que, à côté d'un détail pittoresque, d'un détail amusant qui frappe toujours les visiteurs et qui les divertit, les poissons qui ont été mangeurs d'hommes, rejettent de leur gueule les fragments des hommes qu'ils ont mangés, de même que la terre rend ses cadavres aussi. Mais au centre de ces poissons, il y a une créature assise sur un rocher, et cette créature, c'est le génie des eaux. Eh bien, retrouver dans une mosaïque du début du Moyen-Âge, ou plutôt de la transition entre le haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge proprement dit, cette figure antique de la divinité des eaux associée à des divinités chrétiennes, comme elle l'est dans les mosaïques byzantines, est quelque chose de très important.
Souligné, cher ami, que c'est un nu. C'est tout de même assez
exceptionnel. C'est un nu comme il convient, puisque c'est un nu antique. En somme, c'est une divinité antique. Et à côté de cette divinité antique figurent les personnages de l'Apocalypse, associant ainsi les religions d'autrefois à la religion nouvelle qui se substituait à eux. Et j'ai parlé de réalisme tout à l'heure. Il y a un détail extrêmement curieux. Nous voyons au dernier registre supérieur le Christ descendant Olympe et délivrant les personnages qui y étaient enfermés. Nous voyons les portes brisées, nous voyons les ferrures des portes, nous voyons les clés, et nous avons là, on peut dire, un exemple très curieux de la ferronnerie du Moyen-Âge. Et au-dessus de cette descente du Christ Olympe, le Christ en croix, naturellement, avec la Vierge et Saint Jean, donnant la signification suprême de toute cette grande histoire de la passion et des suites de la passion, de la rédemption, qui devait consoler les fidèles. Les fidèles qui, quand ils entraient dans l'Église, avaient été d'abord épouvantés par les terreurs de ce jugement dernier, car nul n'était certain de son salut, naturellement, et on pouvait avoir peur de ces petits diables qui luttent contre des anges pour la possession des âmes. On les voit, des petits diables noirs et cornus qui portent autour du cou et qui portent suspendus au bras des petits sacs blancs dans lesquels ils ont enfermé probablement les âmes des malheureux pécheurs qu'ils ont volés. Donc, à côté de cette image de grandeur complexe, de grandeur théologique, de la fin du monde et de la rédemption définitive de l'humanité, quand nous nous retournons vers l'abside, nous avons alors, au lieu d'une foule de figures agitées dans un mouvement extrêmement chaotique, nous avons une seule figure, cette seule figure de la Vierge sur un fond d'or, c'est-à-dire seule. Seule dans un espace non pas vide naturellement, mais au contraire un espace rempli d'infini, un espace rempli d'absolu. Ici, l'espace a rejoint l'infini, le temps a rejoint l'infini, et il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de devenir, il n'y a plus que cette grande figure de la Vierge, vêtue d'une robe couleur de pourpre, éternelle leçon de compassion et d'espoir pour les hommes. Et alors je descends de cette figure de la Vierge, je descends jusqu'à l'autel. Et sous cet autel, fait d'une simple dalle de marbre reposant sur 5 colonnes, qu'est-ce que je vois ? Je vois un tombeau. Et ce tombeau, c'est celui du premier évêque de Torcello. C'est l'évêque Paolo, c'est cet homme qui a conduit la migration de son peuple. C'est cet homme qui a donné aux Altinates le courage, l'espoir, la ténacité pour édifier ici une ville capable de remplacer la ville qu'ils avaient perdue. Eh bien, la présence de ce saint Paolo, la présence de ce corps demeurant encore dans ce sol de Torcello, d'où il a fait sortir une ville magnifique, cela aussi donne une signification nouvelle à cette basilique.
Avant de quitter cette basilique, remarquons que nous pouvons saisir ici sur le vif un des secrets de la formation de notre art d'Occident. Je le trouve en 2 endroits. Par exemple, dans les pierres sculptées d'art chrétien primitif qui ont été rapportées, comme je le disais tout à l'heure, de la rive solide, nous avons, d'une part, l'élément de l'intelligence dans la symétrie. Par exemple, 2 pans symétriques qui viennent s'abreuver, ce qui est un lointain souvenir, très lointain souvenir de la fontaine de vie que l'on trouve sous des formes diverses dans l'archéologie déjà. Et pourtant, ces éléments de géométrie, donc d'ordre, de symétrie, sont associés, et cela constitue presque le fond, à une espèce de sinuosité de rameaux, les rameaux de la vigne évidemment, et ces rameaux créent au contraire un mouvement liquide, fluide, c'est-à-dire exactement la contrepartie de cette rigueur trop grande qu'apporte l'intelligence. Et sous, par exemple, la grande mosaïque de la Mater Teu, qui est une odigitria d'ailleurs, puisqu'elle montre son fils de la main, elle montre le chemin, Odos. Et bien au-dessous, il y a un décor. Comment est fait ce décor? À première vue, nous le regardons, il est géométrique. Nous voyons des brisques, nous voyons des dents. Et nous pourrions croire qu'il s'agit là justement d'une création intellectuelle de géomètre. Mais voici cette dualité qui fait la richesse de Venise plus que en aucune autre partie on ne le trouvera en Europe. C'est que cette géométrie, en apparence si rigoureuse, si conceptuelle, cette géométrie, elle est obtenue par de la matière réelle. Ce sont des dalles qui ont été coupées dans du marbre et ce sont les veines du marbre qui sont utilisées pour accéder procéder à l'ordre géométrique. De même, d'ailleurs, on retrouve sous l'autre mosaïque, sous la mosaïque du jugement dernier, il y a aussi un mouvement en brisque, par des lignes parallèles, qui sont obtenues uniquement par du marbre et de la matière, sans intervention de la main de l'homme. Et la couleur joue en même temps. Ainsi, à l'origine de Venise, nous voyons toutes les facultés de l'homme s'unir pour créer un art total, un art complet. Les facultés intellectuelles mettent l'ordre, mais elles reposent sur un sens aigu de la matière brute, et c'est la matière brute que parfois est tirée une coïncidence avec l'ordre. Et tout cela s'épanouit dans la couleur et dans la lumière, et qui sont, nous le savons bien, solidaires, puisque la lumière n'est que le total des couleurs. La lumière varie en intensité pure, les couleurs varient en qualité et décomposent le qualitatif de la lumière, si je peux dire, mais nous avons là, dans ces quelques œuvres, comme l'embryon, d'où va sortir tout l'immense développement de l'art vénitien.
Les peintres, qui, avec des couleurs et des brosses, se sont enhardis à vouloir capturer ce que l'on voit sur la lagune dans les instants où le soleil descend vers elle, s'unit à elle, ont d'autant plus fatalement échoué qu'ils prétendaient fixer leurs sensations optiques dans leur vérité littérale. Les impressions que, à Venise ou ailleurs, Claude Monet enregistrait sur le vif ne sont guère que de mélancoliques et désappointants papillons morts. Quant aux laborieuses toiles sur lesquelles Turner, de ressouvenir, peinait à l'atelier, elles ont souvent la vanité des tours de force ratés. Seule, peut-être, la musique saurait transposer non ce que l'on regarde, mais ce que l'on éprouve dans ces minutes où la contemplation extérieure et la contemplation intérieure ne se différencient plus, et qui, selon l'expression d'Edgar Poe, sont un rêve dans un rêve. Quant aux mots, quelle est leur insuffisance, leur incapacité? Ou bien il faudrait les employer pour parler de toute autre chose et pénétrer dans des régions si intimes, si confidentielles, si clandestines, que l'on risquerait fort d'y toucher à des secrets que l'on préfère se cacher à soi-même. C'est pourquoi, cher Gonzague, par pudeur, par prudence, par lâcheté, depuis un moment, vous le voyez, je passe la plume à d'autres. D'ailleurs, qu'est-ce que la mémoire conserve de transmissible, aussi bien de ce que les yeux ont vu que de ce que l'imagination ou le cœur ou l'essence, je vous laisse le choix du mot, ont éprouvé pendant ce trajet de retour entre Torcello et les Fondamenta Nuove? C'est Liszt, je crois, qui le raconte. Lorsque Chopin avait improvisé au piano, lorsqu'il avait longuement, librement et passionnément prêté la périssable vie des sons à ses aspirations, à ses nostalgies, à ses regrets, à ses espérances, à cette âme de poésie qui n'existait qu'en lui et que par lui, il lui arrivait, en finissant, d'égratigner d'un doigt rapide tout le clavier pour en faire résonner confusément, nerveusement, toutes les notes. Il effaçait ainsi ce qu'il venait de se dire à lui-même. Ces rêveries qui naissent en nous de la contemplation d'un couchant sur la lagune vénitienne à la fin d'un beau jour, ce sont nos pauvres improvisations, et elles s'effacent avant d'avoir, fût-ce éphémèrement, pris forme. Si nous devons en conserver le souvenir, ce sera, sans que nous l'ayons voulu, à notre insu. Ce souvenir réapparaîtra peut-être bien plus tard, métamorphosé en mots ou en images, et méconnaissable. Jean-Louis Vaudoyer.